Le festival Gribouillis, consacré à la bande dessinée et aux livres jeunesse, s'est tenu à Bordeaux entre le 14 et le 17 septembre. L'occasion pour Radio Campus Bordeaux de déambuler dans les allées du salon, au garage moderne, à la rencontre des éditeurs et auteurs présents sur place. Nous leur avons tendu le micro, morceau choisi.
Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Est-ce qu'on peut présenter un petit peu votre stand ?
Oui, bien sûr. Donc moi, je suis l'éditrice des éditions Michi, une maison d'édition qui est béglaise, juste à côté de Bordeaux, et qui ne publie que des albums jeunesse illustrés à partir de 3 ans et jusqu'à 8-9 ans, en gros. On a 3 publications pour le moment. La première publication est sortie en janvier, Un hiver chez Bleuet. Et on travaille beaucoup avec des artistes du monde entier, mais aussi des artistes français. Notre première parution, Un hiver chez Bleuet, c'est une collaboration avec une artiste qui est coréenne, qui vit aux États-Unis. Elle avait déjà commencé à travailler autour de cet ours bleu, puisque c'est un album en monochrome de bleu avec quelques touches de rouge. Et l'idée, c'était de travailler ensemble sur cet ours qui adore être chez lui et qui adore tellement que, en fait, il n'en sort pas trop. Et donc, il va être obligé de sortir à un moment donné pour chercher sa fameuse tarte aux myrtilles dont il a besoin pour l'hiver. Voilà, ça nous permet de parler de plein de thématiques super intéressantes comme la timidité, mais aussi l'anxiété sociale. Et c'est important d'en parler avec un petit peu de tout le monde. Ensuite, on a une deuxième parution qui vient du Canada. Cette fois-ci, c'est une traduction qui s'appelle « La souris qui devint roi ». Et c'est un travail plus classique, traditionnel, autour d'animaux, avec un petit peu ce côté de fable animalière. Et on va parler ici de la légitimité du pouvoir. Comment le pouvoir s'acquiert et surtout comment il se déconstruit, à savoir que donc une souris trouve une couronne, parce qu'elle a une couronne, on estime que c'est un roi, elle demande donc plein de choses aux autres animaux, mais comment fait-on quand les autres animaux découvrent eux aussi une couronne et que son ami l'ours, lui, n'en trouve pas ? Donc l'empathie, eh bien ici, doit être mise en avant plutôt que l'ego. Et enfin, notre dernière parution, c'est à la faveur de l'été, qui nous vient du Japon. Et là, c'est vraiment une parenthèse intemporelle, qui est plutôt un travail fait avec de la peinture, avec des aplats de couleurs. Et c'est extrêmement dynamique. C'est un titre qui, très étonnamment, est sorti au Japon dans les années 2000, donc il a 20 ans, alors qu'on dirait qu'il est sorti tout récemment. Il est beaucoup plus moderne que plein de titres actuels. Et ici, on va retrouver ce jeune aventurier qui va partir à la recherche de quelque chose, je ne dirai pas quoi. Et ça va être toute sa petite aventure et qui nous fait nous rappeler le doux chant de nos étés à chacun, quelles que soient les générations.
On a l'impression que les cadrages, c'est presque cinématographique.
Exactement. C'est un artiste qui est japonais et on sent vraiment cette influence du cinéma asiatique et surtout du studio Ghibli, en tout cas de toute cette animation japonaise. C'est très très fort. Il y a vraiment ce dynamisme, ce mouvement qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Le travelling, par exemple, on le retrouve aussi dans beaucoup de double pages. Donc c'est vraiment marquant graphiquement. Et bien sûr, puisqu'il est japonais, on retrouve toutes ces onomatopées, donc le travail sonore qui va avec cette nature foisonnante.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bon festival.
Merci vous aussi.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut présenter un petit peu les grandes personnes alors ?
Oui, les grandes personnes, c'est une maison d'édition qui a été fondée en 2009, qui a sorti ses premiers ouvrages en 2010. Donc nous sommes spécialisés dans le livre plutôt jeunesse et plutôt le livre objet.
Qu'est-ce qu'on entend par livre-objet ?
Livre-objet, c'est des livres qui peuvent aussi se déployer dans l'espace. Alors ça peut être des livres animés, des pop-up, ou des livres accordéon, ou des livres, j'aime bien aussi, des livres qui peuvent utiliser d'autres matériaux. Voilà, en fait, c'est tout ce qu'on peut faire avec souvent du papier, de l'encre, du fil. Donc ça peut être plein de choses très différentes. Et de la colle aussi, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous parler, je ne sais pas, d'un artiste en particulier ?
De Philippe Huget, vous voulez dire ?
Peut-être.
Alors, Philippe Huget est formidable. Déjà, je vais commencer par là. C'est vraiment un artiste du papier découpé. C'est-à-dire que lui s'exprime vraiment, il pense ses images en 3 dimensions, en fait. C'est-à-dire que quand vous ouvrez la double page, l'image va se déployer, va surgir de la page, hein, sans tirette, sans rien du tout. C'est juste le fait d'ouvrir la double page qui va donc faire l'image en 3 dimensions. Et c'est vrai qu'il a un talent qui est tout à fait particulier, hein, parce que ça nécessite aussi une grande technicité. Donc Philippe fait des livres animés depuis des années maintenant, des livres animés au départ d'artistes qu'il développait vraiment en tant que livre d'artiste. Et il travaille avec les grandes personnes depuis le début des grandes personnes en fait. Et donc on a pu mettre ces livres d'artistes à portée aussi de tout le monde. Donc ça a été une rencontre importante pour nous. Et il publie chez les grandes personnes 2 titres par an.
C'est assez impressionnant là. Alors on est à la radio, on ne se rend pas bien compte. Mais si on voulait décrire un petit peu ce qui se passe sous nos yeux, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Ah ben là, je vais voir un... Voilà. Là, c'est son livre sur les robots qui fait aussi du bruit en actionnant la double page. Il peut aussi y avoir vraiment une autre double page, un robot qui va surgir, se dresser à l'intérieur du livre. On voit aussi Lagon Bleu, qui est un de ses derniers ouvrages, où là, c'est un livre qui va se déployer en carrousel. Et on va vraiment plonger dans la mer, découvrir plein de poissons sur trois niveaux de tableaux et de papiers différents.
Votre imprimeur, il doit s'arracher les cheveux, non ?
Non, il ne s'arrache pas les cheveux parce qu'en fait, c'est sa spécialité. Il adore, en fait, c'est des livres qui sont entièrement montés à la main hein, quand même. Il faut vraiment en avoir conscience. Il n'y a pas de machine pour les faire. Ils sont faits entièrement à la main. Et donc, c'est plutôt un travail de patience et de passion, en fait. Donc, j'ai aussi un imprimeur qui est tout à fait passionné par le livre-objet.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bonjour.
Bonjour.
Qui êtes-vous ?
Olivier Philipponneau, des éditions Trois Oeils.
Est-ce qu'on peut dire deux mots sur ces éditions-là ?
Alors oui, bien sûr. Trois Oeils, donc, c'est un format un peu, une maison d'édition un peu hybride, vu que c'est créé par des auteurs... En jeunesse et bande dessinée. Donc on fait on a une petite production de livres souvent très soignés dans leur graphisme et et la technique de fabrication.
Est-ce qu'on peut parler de la collection Philonimo ?
Oui, Philonimo, c'est une collection qu'on a créée donc, il y a 3 ans à l'initiative de l'autrice Alice Briaraké. C'est une collection qui reprend des paraboles animalières de philosophes et qui ont été réécrites par l'autrice pour en faire des livres pour enfants. Et donc là, on en a 9 qui sont donc avec 9 animaux différents et 9 illustrateurs différents.
C'est de la vulgarisation philosophique à destination des enfants ?
Oui, en tout cas, c'est pour leur faire découvrir, c'est la première découverte de la philosophie, parce que finalement, là, on s'aperçoit que quand on va à la rencontre des enfants, qu'eux aussi se posent des questions philosophiques.
Et donc, vous rencontrez un petit peu votre public sur ce festival Gribouillis. Comment se passe cette rencontre ?
Il y a beaucoup d'échanges à la fois avec un public familial, professionnel. Donc on retrouve des visiteurs qu'on avait vus l'année dernière. Donc c'est vraiment des échanges très riches.
Est-ce que vous échangez aussi avec les autres éditeurs ? Est-ce que c'est un petit monde qui se connaît très bien ou pas du tout ?
C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup l'occasion toujours de se voir. Et donc c'est toujours des moments aussi importants où il y a des échanges entre auteurs et éditeurs. D'autant plus que là, ça reste un salon à taille humaine, donc les échanges sont beaucoup plus facilités. Ouais.
Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette revue Dada ?
Oui, tout à fait. Alors la revue Dada, c'est une revue qui traite d'art depuis 30 ans et on a comme objectif d'essayer de rendre l'art accessible à tous. Donc c'est vraiment une revue d'initiation, de vulgarisation. Qui est à destination de tout type de lecteurs, donc des plus jeunes comme pour les adultes qui s'intéressent. Et voilà, donc dans chaque revue, on va traiter soit d'un artiste, soit d'un mouvement ou d'un thème un peu général. Et accompagné d'historiens de l'art, on va traiter du sujet sur 30 pages. On agrémente tout ça d'activités manuelles pour mettre en pratique ce que vous avez pu apprendre de manière théorique. Et voilà, on fait aussi un petit point sur l'actualité culturelle, les événements dans les musées, les expositions et les festivals.
Qui sont vos lecteurs ?
Mais ça peut très bien être des personnes qui s'y connaissent déjà en art, donc des passionnés, des spécialistes, tout comme les personnes en fait qui souhaitent s'initier, souhaitent découvrir l'art. Et qui ont parfois ce petit a priori ou cette petite peur de ne pas réellement avoir les outils nécessaires pour. Voilà, donc nous, on est là pour les leur donner.
Alors là, aujourd'hui, vous êtes sur le festival Gribouillis. Le reste du temps, où c'est qu'on peut trouver cette revue ?
Alors nous, notre maison d'édition est basée sur Paris. Mais sinon, on a un site internet sur lequel vous pouvez commander nos revues. On est trouvable en librairie aussi, pas dans les kiosques, bien dans les librairies. Et voilà.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des éditions Atrabile, s'il vous plaît ?
Oui, on est un éditeur suisse. On a fêté l'année passée nos 25 ans. On est basé à Genève et voilà, on publie de la bande dessinée dite alternative.
Alors c'est quoi la bande dessinée alternative ?
La bande dessinée alternative, aujourd'hui c'est compliqué. Il y a 25 ans c'était un peu plus clair parce que les choses étaient un peu plus tranchées. Mais en gros c'était une bande dessinée... qui avaient des prétentions peut-être un peu plus littéraires et surtout qui correspondaient moins à des critères précis, quoi, qui étaient un peu plus libres et dans sa forme et dans le choix de ses sujets. Aujourd'hui, c'est un peu moins l'apanage des petits éditeurs, ce qui était le cas il y a peut-être 20 ou 25 ans. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de définir ce qui est alternatif aujourd'hui, mais on va dire qu'on continue à offrir un espace de liberté aux artistes qu'on accueille et aussi peut-être une pointe d'avant-garde ou d'expérimentation, ce qui est peut-être pas toujours des choses qu'on retrouve chez les éditeurs un peu plus en place.
C'est aussi ce que recherchent vos lecteurs, du coup.
On ne sait pas ce que cherchent nos lecteurs. Et à la limite, on ne veut pas le savoir. En fait, on essaie de publier des choses qu'on aime. On ne pense pas trop à nos lecteurs, en fait. On est content quand il y en a un, on est un peu déçu quand il n'y en a pas. Mais on essaie de ne pas trop penser à eux, parce que je crois que si on commence trop à penser à nos lecteurs, je ne suis pas sûr qu'on fasse obligatoirement les choses qui nous plaisent à nous. On espère que juste les choses qu'on publie vont trouver un écho chez d'autres lecteurs. Et puis, nous, on est des passeurs. Quelque part, il y a un artiste qui fait quelque chose, quelque part dans le monde. On trouve ça génial, on pense qu'il faut qu'il ait un coup de projecteur, on va essayer de lui donner ça, quoi.
Aujourd'hui, vous êtes sur Gribouillis, donc c'est un festival de bande dessinée et de livres jeunesse. C'était important pour vous d'être présent ici particulièrement ?
C'est présent d'être là où on est bien accueilli et où on sent qu'on est désiré, en fait, c'est surtout ça. Donc nous, on fait à peu près une dizaine de festivals et de salons et compagnies par an. Il faut trouver un espèce de mélange entre un endroit où on aura sa place, c'est clairement là ce qui se passe à Gribouillis, et puis un endroit où on peut avoir un peu de public, un endroit où ça sera agréable d'être là, un endroit où... Voilà, c'est un mélange de choses. Donc oui, c'est important d'être dans les festivals, et puis il y a une espèce de, je sais pas comment dire, espèce de soutien un peu mutuel. Gribouillis soutient les petits éditeurs en les invitant, nous-mêmes on soutient aussi Gribouillis en venant, et voilà. C'est un mélange. Je dirais pas qu'on est demandeur, mais on a besoin de sortir de nos bureaux et de rencontrer un peu notre public aussi de temps en temps.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Qui es-tu ?
Je suis Lilian et je tiens le stand des éditions Frémok ici. C'est un collectif d'auteurs et d'autrices. On ne publie pas que les auteurs et autrices de chez nous. Et de façon plus générale, on publie toute bande dessinée qu'on nous propose ou qu'on a envie d'éditer, qui nous paraît amener la bande dessinée vers d'autres possibilités graphiques et narratives. Nous, dans nos bandes dessinées, il n'y a pas toujours beaucoup de texte, c'est souvent de la narration par l'image principalement. Les auteurs et les autrices qui publient chez nous, c'est des gens qui aiment amener la BD vers des nouvelles possibilités, la confronter avec d'autres arts, avec d'autres expressions artistiques, ramener des façons de raconter en bande dessinée ou de dessiner, ramener des choses différentes, des techniques différentes, il y a de la bande dessinée en peinture, en gravure, plein d'autres choses.
Là vous êtes sur le festival Gribouillis, pourquoi avoir choisi ce festival ?
Nous on est invités, l'ambiance est bonne, on aime bien les autres éditeurs présents, donc on vient quoi. Je crois qu'on est invités donc on vient, ouais. Voilà.
Bonjour, est-ce qu'on peut présenter un petit peu les Fourmis Rouges ?
Les Fourmis Rouges, on est une maison d'édition pour enfants créée en 2013. On fête cette année nos 10 ans. Et voilà, on est spécialisé dans la publication de livres pour enfants, d'albums illustrés surtout. Et on publie environ 10 livres par an.
Et quelles sont vos particularités par rapport à ce que vous éditez ?
Vous pouvez voir qu'il y a des albums aux écritures, graphiques, aux illustrations très différentes, mais ce qui caractérise un peu les Fourmis, c'est déjà une attention particulière qui est portée au texte, aux histoires, et puis évidemment au graphisme. Chaque livre est vraiment soigné, que ce soit le projet en amont à l'édito, que l'impression, la fabrication. Et on essaye aussi d'avoir un peu de l'humour en fait dans les livres. Il y a vraiment une attention aussi qui est portée à ça pour qu'il y ait un plaisir de lecture entre les enfants et les adultes, quoi. Là, c'est Thomas Médard et Elisabeth Renardi qui sont auteurs.
D'accord.
De l'étrange collection.
D'accord. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'étrange collection de Mamita ?
Donc c'est un projet en fait qui est né de notre amour commun pour les collections et les collectionneurs. C'est des personnages, les collectionneurs qui nous touchent particulièrement. Il y a d'abord le premier collectionneur, c'est l'enfant qui va ramasser un morceau de bois, des cailloux et qui va les garder. Et ça c'est déjà un petit peu les prémices de ce que peut devenir après un collectionneur un peu plus fou ou maladif comme pourrait, dans le bon sens du terme, de devenir certains adultes excentriques qui vont garder cette petite part d'enfant et continuer à collectionner. Et nous, on avait envie de partir sur une galerie comme ça, de portraits de collectionneurs plus farfelus les uns que les autres. C'est une grand-mère qui parle de tout ça à sa petite-fille. Et voilà, donc c'est aussi un livre de transmission entre une grand-mère et sa petite-fille. sous fond d'une petite balade et voilà, d'un moment privilégié entre elles deux.
On peut aussi ajouter le côté artistique des collections et la réflexion que les enfants ou les plus grands, les artistes, ont et mettent en espace par rapport à leurs objets.
En fait, oui, nous, on trouve que les collectionneurs, c'est des artistes, même si c'est le simple fait de ramasser des cailloux parce qu'ils ont des mêmes formes et de les mettre ensemble sur une planche de bois, bah, nous, on trouve que c'est une œuvre d'art, en fait. Donc, voilà, on a beaucoup de respect aussi pour la démarche artistique du collectionneur.
Vous êtes vous-même collectionneur, tous les deux, ou pas ?
On est des petits joueurs, nous, en termes de collectionneurs. On a des petites collections de cailloux, de choses qu'on va mettre sur des étagères. Mais par contre, on côtoie des collectionneurs dans ma famille, par exemple. Il y a beaucoup de collectionneurs. Mon père, il a des tas de collections, des micros, des tire-bouchons, plein de choses. Donc, j'ai fort baigné là-dedans. On n'est pas vraiment atteint du syndrome nous-mêmes. Mais du coup, ça nous permet de l'observer, peut-être, et de prendre un peu de recul dessus. Ouais.
Est-ce qu'ils sont pas un petit peu fous, les collectionneurs ?
C'est ça qu'on aime.
Ils ont en tout cas une obsession pour un objet précis et ils vont chercher à tout prix à en avoir, en accumuler le plus possible. Et il y a chaque fois une toute petite différence entre chaque objet et c'est ça qui va aussi enrichir leur univers, leur collection. Et ils sont fous, je sais pas. En tout cas, ils sont restés enfants.
Merci.
Merci à vous.